Aujourd'hui, nous allons parler de comment réformer sur le terrain en écoutant le témoignage d'un expert. Philippe Potier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous intervenez comme expert pénitentiaire sur des réformes dans différents pays d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ces missions ?
Ce qui m'y a amené, c'est essentiellement l'expérience pénitentiaire que j'ai. J'ai travaillé une quarantaine d'années dans l'administration pénitentiaire, comme éducateur, dans différentes prisons, services de probation, au ministère aussi. J'ai été directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et à cette occasion, d'ailleurs, en tant que directeur de cette école, j'ai eu à côtoyer de nombreux collègues d'autres pays, puisque l'école avait des contrats de coopération avec ces pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé un travail plus continu que je fais maintenant d'expert international pénitentiaire.
Et donc actuellement, vous intervenez en Tunisie, un pays qui connaît un taux de surpopulation carcérale très important. On voit sur la carte la capacité des établissements, une capacité qui est dépassée 150-200%. Et donc cette surpopulation est un enjeu important des réformes. Quelles mesures sont proposées pour répondre à ce problème ?
Alors il y a deux axes de travail principaux. Le premier, c'est le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine, qui existent très peu en Tunisie. Alors les alternatives, c'est le fait de développer d'autres modes de sanction que la prison pour sanctionner les gens en dehors des murs. Les aménagements de peine, c'est de développer les modes de sortie accompagnés de prison. Alors bien sûr, cela devrait avoir pour effet, si on arrive à la développer, de diminuer le nombre de détenus, puisque d'autres sanctions seront possibles pour les juges. Il n'y aura pas que la peine de prison. Et l'autre axe, ça consiste à travailler sur les conditions de détention et d'améliorer la vie quotidienne en prison autant que faire se peut dans ces conditions difficiles pour que ce ne soit pas un frein ou le moins possible un frein à la réinsertion des détenus.
Et alors concrètement, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des acteurs à différents niveaux, à des niveaux décisionnels et également à des niveaux pratiques, que ces changements sont possibles, désirables et qui peuvent amener à un meilleur système pour tout le monde ?
Alors il y a un climat de confiance à établir, hein, parce que les experts internationaux, il y en a beaucoup qui passent dans ces pays. Je pense que dans le cas d'experts comme moi, le fait d'avoir travaillé très longtemps dans l'administration pénitentiaire, c'est un plus parce que d'une certaine façon, je suis un collègue pour les collègues tunisiens. Quand je rentre dans une prison, ça se voit que ce n'est pas la première fois que je rentre dans une prison et que je sais comment ça marche, tout simplement. Donc il y a une confiance qui s'établit. Et c'est évidemment très important parce qu'il ne faut pas que ce soit des réformes qui tombent du haut et qui viennent uniquement parce qu'on a décidé dans un contrat de dire qu'il fallait réformer. Et il faut aussi qu'il y ait une confiance qui s'établisse avec les autorités du pays, que ce soit les autorités politiques, les cadres pénitentiaires, les magistrats. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre de tels projets de réforme si de l'autre côté, il n'y a pas ce désir de réforme qui est rencontré par l'expert.
Et donc il y a certains contextes politiques qui seraient plus favorables à la réforme.
Bien sûr, c'est évident. Je vais dire une banalité, mais le contexte favorable à la réforme, c'est quand les personnes du pays bénéficiaire, les responsables du pays bénéficiaire, sont convaincus de la nécessité d'une réforme et que ça ne se fait pas uniquement pour avoir l'air de correspondre aux standards internationaux et pour l'apparence. Ce n'est pas évident dans tous les pays. J'ai des expériences dans d'autres pays où, au bout d'un moment, je suis obligé de me dire finalement, le travail que je fais, qu'est-ce qui va donner comme résultat ? À part le fait de dire il y a des experts qui sont venus et on a travaillé sur une réforme. Bon. Actuellement, en Tunisie, du fait du contexte politique qui est ouvert aux réformes et du fait aussi de personnes très précises, hein, le directeur actuel de l'administration pénitentiaire tunisienne et d'autres personnes, on sent qu'il y a ce désir de réforme et de faire évoluer les choses correctement. Qu'est-ce que ça veut dire faire évoluer les choses correctement ? C'est toujours une meilleure prise en charge du public confié à l'administration pénitentiaire.
Et donc, comme acteur de réforme, vous intervenez en fonction des demandes d'un pays bénéficiaire. Mais est-ce qu'il arrive parfois que les demandes soient en décalage par rapport à ce qu'un bailleur souhaite financer ? Je pense par exemple à des mesures visant à renforcer l'appareil sécuritaire des prisons. Est-ce que ça arrive dans ce travail-là qu'il y ait des décalages entre les visions de la réforme ?
ça pourrait arriver. Moi, pour ce qui me concerne, je n'interviens que dans un cadre européen. Donc, toute mon action et l'action des experts avec qui je travaille est encadrée par les standards du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne et les standards de l'Organisation des Nations unies, les règles pénitentiaires européennes, les règles européennes de probation. Tout cet ensemble de règles est fondé sur les déclarations des droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, et sur le concept de droits de l'homme. Donc ça, c'est une donnée de base essentielle pour le travail que je fais. Les contrats ne sont possibles que si on se situe dans ce contexte international de développement des droits de l'homme. Donc ça élimine forcément un certain nombre de projets possibles. Et de fait, l'idée, c'est bien de mettre en place des réformes pénitentiaires qui visent à favoriser la réinsertion et la non-récidive des personnes confiées à l'administration pénitentiaire. Donc si ce cadre-là est bien fixé, le contrat peut avoir lieu. Mais en général, c'est bien établi dans les attendus du contrat.
Et donc ces différents types de... Enfin, ces contrats s'inscrivent dans différentes modalités. Et je pense notamment au fait que l'Union européenne a des modalités d'intervention pour l'aide internationale qui sont différentes. Il y a le jumelage, l'appui budgétaire, la subvention. Est-ce que vous pouvez nous parler des différences du travail de la réforme dans ces différents modes d'intervention et des intérêts et limites de ces modes d'intervention ?
Oui. Alors effectivement, c'est assez complexe. Il y a plusieurs cadres juridiques. Je vais en expliquer quelques-uns. Donc le jumelage, c'est un accord entre des pays de la zone européenne et le pays bénéficiaire, sous l'égide de l'Union européenne. Par exemple, le jumelage que je viens de terminer en Tunisie sur les questions pénitentiaires et de probation, il était mené par la France avec l'Allemagne, pays bénéficiaire de la Tunisie. Dans ce cas-là, ce sont des fonctionnaires de pénitentiaires des pays membres du jumelage qui interviennent. C'est vraiment un rapport de pays à pays, quoi, d'État à État. Dans le cadre d'une assistance technique, c'est différent. L'Union européenne lance un appel d'offres, des organismes y répondent, ils font venir des experts, qui peuvent être d'anciens pénitentiaires, mais pas forcément. Donc c'est quelque chose qui, en général, est plus axé sur un thème particulier, alors que les jumelages couvrent un champ beaucoup plus large. Et puis, il peut y avoir des accords avec des ONG, des différentes sortes d'accords. Alors, les limites et l'intérêt de tout ça, de l'expérience que j'en ai, la formule du jumelage me paraît particulièrement intéressante parce qu'elle permet de vraiment mettre en jeu des professionnels. Des questions pénitentiaires, puisque moi j'interviens sur ces questions-là. Et ça favorise ce lien avec les acteurs locaux, hein, puisqu'on est des pénitentiaires des deux côtés. Donc on n'est pas seulement des consultants qui viennent faire leur travail et qui repartent après. On a une motivation différente parce que c'est notre job en permanence de travailler avec des détenus, quoi. Donc je pense que c'est un cadre tout à fait adapté. Ceci dit, c'est un cadre lourd. Il n'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'il faut avoir une quantité de fonctionnaires disponibles pour intervenir. Donc, c'est toute une infrastructure assez lourde, quoi. L'assistance technique, elle est plus facile, mais elle a peut-être un cadre qui est moins fort.
Et donc, on voit dans ces différents types d'interventions que certaines portent aussi davantage sur une réforme législative, hein, changer un cadre juridique, par exemple, pour créer la possibilité de l'approbation, et d'autres portent davantage sur des expérimentations locales, mettre en place un projet pilote, par exemple. Comment s'articulent ces approches et comment est-ce qu'elles peuvent participer à changer une culture punitive d'un pays ?
Alors, changer la culture punitive d'un pays, c'est très difficile. C'est difficile dans n'importe quel pays. En France, on a aboli la peine de mort. Je ne sais pas quel résultat il y aurait si on faisait un référendum actuellement. Donc, il y a un travail à faire au niveau du politique, de la loi, des choix à faire, qui sont forcément politiques à un moment donné, pour que dans la loi, on inscrive ce qu'il faut pour que les réformes puissent avoir lieu, qu'elles aient le bon cadre juridique. Mais évidemment, une réforme, ça ne peut pas être que la loi. On en a l'exemple en Tunisie, où le travail d'intérêt général avait été institué, ça fera bientôt presque 20 ans qu'il a été institué, et n'a pas été mis en œuvre parce qu'on a voté une loi et on n'a pas réfléchi à comment la mettre en application, qui va le suivre. Est-ce qu'il y aura des services pour mettre ça en place? Non, bah, du coup, c'est pas prononcé, quoi. Donc, il faut intervenir sur les deux, à la fois la loi, les modalités techniques, pratiques, professionnelles, les bonnes pratiques professionnelles qui permettent d'avancer. Et je parlais des standards internationaux. Dans les standards internationaux, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin de loi pour exister, qui sont avant tout des questions de pratiques professionnelles correctes.
Très bien, merci beaucoup. On voit bien dans vos propos comment peuvent s'articuler des négociations presque diplomatiques hein, sur l'adoption de standards internationaux et la mise en œuvre par des praticiens de ces transformations au quotidien dans l'institution.